Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui à Londres où j'ai la chance de croiser pour la énième fois, en tout cas pas la première, Toury Mount. Bonjour Toury.
Bonjour Mathieu, ravi d'être là avec toi.
Eh ben pareil. Toury, est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Avec plaisir. Donc, je suis anglo-franco-suédois, je suis né à Rome. Je parle français plus ou moins, mais on me dit avec un accent belge. J'ai grandi en Angleterre et j'ai eu un parcours très, messy, diraient les Anglais. C'est-à-dire que j'ai commencé en étudiant l'arabe classique et puis après j'ai fait de l'histoire médiévale. J'en suis sorti en 1999 et peu de temps après, l'arabe et tout ce qui était le monde arabe est soudainement devenu très intéressant pour de raisons politiques avec les attentats sur les deux tours. Donc je suis devenu journaliste, éditeur, politologue et j'ai fait plusieurs choses. J'ai écrit un bouquin sur Saddam Hussein, je suis allé en Irak comme correspondant de guerre en 2003, j'ai monté un journal à Beyrouth qui faisait compétition au journal le plus pompeux et intello anglais qui s'appelle The London Review of Books, qui lui-même fait compétition au journal le plus pompeux et intello américain qui s'appelle The New York Review of Books. Mm-hmm. Et donc moi, je ne me souviens même plus quand, en 2004, je crois, j'ai lancé The Beirut Review of Books pour leur expliquer ce que c'est que d'être pompeux et intello. Donc c'était ma première boîte.
À quel âge ?
J'avais 26 ans.
Et pour revenir juste un peu en arrière, quand t'es étudiant et que t'as donc, je sais pas, 18, 19 ans, pourquoi tu étudies l'arabe classique ? Alors déjà, oui, pourquoi ?
Donc, si j'avais vraiment suivi mon cœur à 17, 18 ans, j'aurais fait de la littérature, je crois. Mais je détestais mon prof de littérature anglaise. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'utile à l'université. Comme les maths, je n'ai jamais vraiment su compter. Et les sciences, pareil. Je me suis dit, les langues, ça, je peux. Donc, j'ai trouvé la langue la plus difficile. Et je me suis dit que j'allais apprendre celle-là.
Et l'arabe classique, on est d'accord, c'est l'arabe de l'ancien temps. C'est un arabe
exact.
Donc, qui ne se parle plus aujourd'hui.
Pas du tout. Donc, j'ai fait ça à Oxford. Avec un professeur, le professeur d'arabe à Oxford ne parlait pas arabe. Il était un des grands experts sur la littérature pré-islamique du monde arabe, mais le lisait et l'écrivait et faisait des grands discours sur la grammaire pré-islamique, mais ne parlait pas arabe. Donc, pour te donner un peu une idée d'Oxford, dans les années 90, c'était pas des années 1990, c'était 1490. et puis après, j'ai passé un peu de temps en Syrie, j'ai vécu un an en Syrie où j'ai appris de l'arabe, le dialecte.
D'accord.
Sous Hafez al-Assad, donc le père du monstre aujourd'hui, qui était tout aussi monstre lui-même.
D'accord.
Et donc voilà. Et je me suis dit que de faire quelque chose de vraiment difficile pourrait me servir. En fait, c'est absolument le cas. Le début de ma carrière s'est fait uniquement à cause du fait que j'avais cet avantage absurde sur d'autres. On était très très peu. Et le monde, malheureusement, a fait en sorte qu'on était en demande.
Et donc après, ou en même temps, histoire médiévale, tu as dit, c'est ça ?
Oui. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, mais même moi, à la fin, le fait d'apprendre une langue morte depuis très 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 longtemps avec des professeurs qui nous traitaient comme des imbéciles, puisque l'arabe est très difficile, il faut traiter ceux qui apprennent comme des imbéciles. Je me suis dit que je ratais quand même pas mal de choses intéressantes au niveau intellectuel. Donc j'ai changé, j'ai fait de l'histoire, ce qui m'a permis de faire la théorie de l'histoire, qui m'a théorie qui m'a permis de rentrer dans tout ce qui était la théorie, un peu de la sociologie et de la politique, des sciences politiques. Donc, mais il s'avère que ce qui m'intéressait, c'était la naissance de l'islam, l'époque byzantine, et puis quelques autres choses sur le côté. Mais ça m'a vraiment ouvert l'esprit au niveau théorique de pouvoir faire de l'histoire.
Et quand tu rentres dans des études qui sont assez précises comme ça, que t'es franco-suédois, anglo, je sais pas quoi, presque blond en tout cas, aux yeux bleus, etc. Enfin, vous êtes plein comme ça. Ça intéresse surtout des Arabes, des descendants, où il y a un peu de tout. Où tu détonnes un peu là-dedans, je veux dire.
Très bonne question. Les études régionales, en fait, se sont professionnalisées dans le monde anglo-saxon. Aux États-Unis, après la Deuxième Guerre, quand les Américains se sont rendus compte que l'Angleterre n'allait plus gérer le monde pour eux, ou n'allait plus être le policier du monde. En Angleterre, il y a une longue tradition d'intérêt pour les études régionales. Je parle du russe, de l'arabe, de l'hébreu, du persan, etc. Un peu moins les langues vraiment orientales. Et ça date du 18e.
D'accord.
Donc il y a une tradition autochtone, si tu veux, d'intérêt pour le reste du monde, empire et toutes ces conneries. Mais il y a, mais aussi, on s'est modernisé. Donc la perspective, heureusement, a changé. D'accord. Il y a une phrase très très belle de Salman Rushdie qui dit le problème des Anglais, c'est qu'ils ne connaissent pas leur histoire, parce que toute leur histoire se passe à l'étranger. et on s'est finalement rendu compte que cette perspective anglaise ou britannique sur le reste du monde était absurde, et que finalement, en fait, les études régionales ont beaucoup plus pris des perspectives régionales.
D'accord. On va revenir sur la période Irak et ce qui se passe juste après quand même, parce que c'est assez, assez drôle, je ne savais pas ça en l'occurrence. Tu dis que t'es donc franco-suédois et anglo d'ailleurs, anglo-franco-suédois, donc tu as trois nationalités.
J'en ai deux au niveau passeport, mais d'accord, trois au niveau esprit, en fait quatre au niveau esprit, puisque ma femme est italienne, mes enfants sont italiens.
D'accord.
Donc je suis maintenant un pauvre perdu sur cette île qui se détache de l'Europe que j'aime et qui me représente.
D'accord. Et du coup, toi tu es né en Italie, il n'y a pas de droit du sol en Italie?
Non. Si, je pourrais avoir cette nationalité aussi.
D'accord.
Donc, ma mère est française de Paris. Mon père est anglo-suédois. Ils se sont rencontrés à Rome, puisque ma mère était restauratrice de tableaux et vivait à la Villa Medici. Et mon père réussissait à écrire un roman.
D'accord.
Et voilà.
Et du coup, tu parles combien de langues? Parce que la langue est quelque chose d'important, j'ai l'impression, dans ton
parcours. Il y a deux réponses. Je parle cinq langues.
Oui.
Quelqu'un me dit, et d'ailleurs le disait à mes parents qui parlent aussi pas mal de langues, qu'on est tous des zéroglottes, c'est-à-dire on parle aucune langue correctement.
Je te rassure quand même, j'aimerais bien parler anglais aussi bien que tu parles français, mais d'accord, et j'imagine que tu parles l'anglais quand même.
L'anglais ça marche,
ouais.
L'anglais ça marche.
D'accord, et donc tu grandis à Londres principalement, né à Rome, mais
on revient en Angleterre quand j'ai 2-3 ans. Mon frère est né ici. On grandit à Londres dans un contexte très privilégié, d'école privée anglaise, etc., etc. Donc j'ai une enfance dorée grâce à des parents
qui sont pourtant dans des métiers un peu exotiques quand même.
Exactement, mais avec mon père arrête d'écrire des romans à 30-35 ans et se met dans le business.
D'accord.
Et ma mère sort d'une famille qui fait du business depuis très longtemps.
D'accord.
Donc voilà, je quitte l'Angleterre à 18 ans comme font tous les jeunes de classe moyenne pour aller voir un petit peu le monde pendant un an avant d'aller à l'université.
D'accord.
Et je vis au Népal, je vis en Espagne. Et puis après, je reviens, je fais l'université, un an en Syrie, et puis je me balade. En fait, j'ai vécu un peu en Espagne, au Népal, en Syrie, à à Jérusalem, après Oxford, l'université m'a donné une bourse pour apprendre l'hébreu. Et puis après, New York, après, j'ai commencé un doctorat à New York, après, quelques années après. Mais je saute un petit peu partout.
On reviendra sur tout ça, j'ai vu, parce que j'ai l'impression que les études, c'est que c'est un fil quand même sur lequel tu reviens une fois de temps en temps. Je reviens juste sur l'hébreu et du coup une langue de plus et que tu parles du coup maintenant.
Non, pas du tout. Je suis donc ma mère est juive. D'accord. Et donc je me sens juif sur beaucoup de choses et donc je voulais mieux comprendre la culture et je voulais apprendre la langue, mais en fait c'était une très très bonne excuse pour passer pas mal de temps à Jérusalem. J'ai surtout bossé dans des think tanks là-bas, puisque tous les autres étudiants qui se sont retrouvés dans ma petite classe d'été qui s'appelle un ulpan, c'était tous des juifs américains qui sortaient de la Californie, qui n'avaient jamais vraiment voyagé, qui n'avaient jamais appris d'autres langues. Je n'ai jamais vraiment été en classe avec des gens plus bêtes, et donc ça a pas duré très longtemps.
Mais du coup, tu, si je reviens du coup sur ce point et de tes études d'arabe classique, quand tu es d'ascendance juive, ouais, hébraïque, c'est une drôle d'approche. Tu disais tout à l'heure aussi que dans l'histoire, ce qui t'intéressait, c'était la naissance de l'islam. Tu as réfléchi à pourquoi ou comment
non mais c'est une très très bonne question. Je me rends compte que c'est pas une interview, c'est une analyse que tu es en train de me faire. Et d'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'aurais dû en faire. Non, c'est précisément peut-être à cause du fait que il y a tellement de cultures à l'intérieur de tout ça. Mes parents de cultures différentes, de langues différentes, de religions différentes. J'étais très intéressé par l'historique, le fait que l'islam naisse dans un contexte vraiment historique et à la base plutôt vérifiable, si tu veux. Donc ça me fascinait de voir...
Relativement récent en plus.
Très récent, on parle d'il y a 1400 ans, avec pas mal de documents historiques autour. Donc ça me fascinait. Parce que la religion elle-même me fascinait. D'ailleurs, le doctorat que j'ai commencé aux États-Unis était sur l'anthropologie de la religion.
D'accord.
Donc j'étais très intéressé par la place qu'a la religion dans la personne humaine et presque plus que ça dans la politique.
D'accord. Et c'est vraiment intéressant tout ça parce qu'on j'ai souvent sur ce podcast des gens qui sont, tu vois, très business et qui rentrent dedans très tôt, voire très très tôt, etc. Et toi, on a l'impression que t'es vraiment passé dans des phases plutôt de curiosité du monde qui nous entoure et pour peut-être on y viendra, enfin arriver plus tard dans le business en fait. Et avant de parler de ça et de comment on s'est rencontrés aussi parce que c'est assez drôle. Donc t'as été correspondant en Irak. Mm-hmm. Donc tu as été en 2003, tu disais en Irak, 2003, c'est la guerre encore ?
C'est exactement la guerre, c'est le début de la guerre. Donc en 2002, beaucoup s'est passé assez vite. J'ai eu mon premier enfant, donc j'avais 25 ans. Je travaillais à l'époque comme éditeur de livres. J'écrivais pour tous les journaux ici en Angleterre. Et quelqu'un m'a demandé de faire un bouquin sur Saddam Hussein, sachant que le début de la guerre allait commencer. Donc j'ai fait, ma femme était enceinte, je travaillais déjà deux boulots et là j'ai fait ce bouquin sur Saddam Hussein, n'étant jamais allé en Irak. Je l'ai fait très très vite, je me suis senti un peu coupable. Le bouquin lui-même était pas mauvais, mais me sentant un peu coupable, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'y aille. Et donc la guerre a débuté en mars 2003 et moi j'y suis allé en mai comme freelance correspondant. Ma femme était ravie.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Freelance, ça veut dire qu'en quand même, tu vas pas pour AP, Reuters.
Non,
AP,
malheureusement.
Tu pars, tu prends un billet, t'as ton quoi, un appareil photo ou un t'écris, tu fais
exact.
Les deux.
Je fais les deux.
Et
tu vends ce que tu peux.
Et tu vends ce que tu peux. Et t'as pas de protection.
T'as pas d'assurance. Enfin, j'avais pas d'assurance. T'as pas de protection. C'est très 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 con.
Donc tu prends un avion. Comment t'arrives en Irak deux mois après le début de la guerre déjà?
Jordanie. Donc tu voles jusqu'en Jordanie et puis tu sautes dans un taxi collectif à Amman. On était cinq, je crois, dans le taxi.
Cinq occidentaux?
Cinq un peu tout, non? Ouais. Tu avais des marchands jordaniens ou irakiens qui revenaient, qui repartaient. Tu avais, non, surtout, c'était tous des Arabes. Mais il y avait pas mal de journalistes aussi à Bagdad. Mm-hmm. Et donc, on prend un taxi collectif, qui traverse le désert. Tu te retrouves à Bagdad. Et là, et là tu commences à essayer de voir ce que tu peux faire.
Mais attends, tu pars, tu prends un gilet pare-balles, un casque, t'as un truc, t'as
rien, totalement inconscient. Mais on a 26 ans qu'une fois, donc
donc tu prends vraiment un petit sac à dos,
tu sais ce que j'avais un t-shirt rose,
ouais,
et une casquette blanche que m'avait donné ma femme, en se disant il a l'air tellement pas arabe et pas militant dans un t-shirt rose avec une casquette blanche que qui survivra à cette chose qui s'est passée.
Oui, parce qu'en effet, j'allais dire, tu vois, j'imagine que le mot va vite quand t'es dans un taxi, ou alors je sais pas s'il y avait déjà beaucoup d'enlèvements ou de choses comme ça.
Non, c'était le début. Donc j'y suis allé au début, il y avait très très peu, mais je me souviens, moi j'ai fait tout le tour de l'Irak en transport public. Primo, parce que j'avais pas tellement d'argent,
oui.
Mais aussi c'est un moyen très facile de voir le pays et parler à des gens. Et je me souviens d'un voyage en transport public. Ce sont des genres de minivan qui je me souviens plus, c'était Nasria à Basra. J'étais devant et je me rends compte qu'il y a une longue conversation derrière moi qui est sur, tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on peut lui dire qu'il va se faire tuer? Comment est-ce qu'on peut lui dire que c'est un imbécile? Comment est-ce qu'on peut lui dire que c'est très, très dangereux? Et il commence à parler de moi, de manière très, très concernée et très généreuse et sympathique, se disant, mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait, etc.
Il pensait que tu parlais pas arabe.
Il pensait que je parlais pas arabe. Donc finalement, je me retourne. Et là, pendant une heure, une longue conversation entre nous tous en train de se décider s'il fallait que je fasse semblant d'être un Libanais qui avait passé du temps à l'extérieur, mais qui revenait, si c'était mieux d'être journaliste ou mieux d'être businessman. Et en fait, d'une sympathie, d'une générosité, d'un comment tu dis, concern, d'un intérêt pour mon intérêt immense. Donc ça s'est bien passé.
D'accord. Et donc tu dis que tu fais le tour de l'Irak, donc Bassora, c'est là où étaient les Anglais, je crois.
Exact.
Voilà.
Kurdistan, etc.
Mossoul, tout. Et c'est quoi? Déjà, t'as eu peur là-bas?
J'ai eu très peur deux fois. Et les deux, je te parle, c'était vraiment le début de l'occupation. Donc le vrai soulèvement arabe ne s'était pas encore passé, mais les deux fois que j'ai eu vraiment peur, c'était à cause de soldats américains, des très jeunes soldats américains qui savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils sont très très jeunes, ils avaient 19 ans, et il y en a un que je me suis dit que ça allait peut-être mal se passer.
Avec toi?
Avec moi. J'étais trop près j'étais à Kirkuk, dans la zone kurde. Ce que les Kurdes veulent, soit la capitale kurde. Mmh. Et je m'étais approché de la base américaine et je prenais des photos. J'étais dans mon t-shirt absurde rose et ma petite casquette blanche et j'avais vraiment l'air. Puis je suis blanc. Donc je suis blanc et donc au soleil je rougis. Donc un très jeune, il va avoir 19, 20 ans, soldat, commence à me courir dessus en hurlant avec sa carabine levée à ma tête. Et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il devenait de plus en plus hystérique. Et là, j'ai eu très peur. Il me disait down, down. Et en fait, il voulait que je me couche par terre. Un sol brûlant, brûlant. Je me suis brûlé la figure avec son fusil littéralement derrière ma tête. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Et puis après, il s'est fait, son chef est arrivé et l'a calmé. Mais donc, non, moi, j'ai eu peur de soldats américains, pas de
situation, D'accord. Et du coup, tu t'en tires quoi de tu restes combien de temps sur place à peu près?
Peu, 6 semaines.
D'accord.
Et je reviens.
Tu reviens soulagé quand même. Enfin, tu te dis à un moment quand t'es sur place, tu ta femme est soulagée, mais toi, tu...
Ma femme pas sûre.
Ouais.
Ma femme pas sûre qu'elle soit soulagée quand je rentre. D'ailleurs, elle me le dit. Mais non. Non, on parlera de l'entrepreneuriat dans deux minutes, mais notre sens du risque se module très très vite. Donc, on se fait à beaucoup de choses assez vite.
D'accord. T'as vendu, t'as publié, ça a marché en tant qu'expérience professionnelle, je veux dire.
Ouais, donc j'ai vendu un peu partout. J'ai vendu aux États-Unis, j'ai vendu beaucoup en Angleterre. J'ai fait un très long projet sur le processus de débatification, si le mot se dit. Mais le parti était donc le parti BAT. Mm-hmm. Et y a une grosse critique du processus de débatification, parce que c'est exactement ce qu'ont fait les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. pour dénazifier l'Allemagne. Et ils l'ont fait en Irak très vite et très mal. Et donc, j'ai fait un long travail dessus, qui m'a fasciné. Je suis très mauvais journaliste.
Oui.
parce que ce qui m'intéresse plus, c'est l'analyse. Donc, j'ai toujours été, mais absolument nul dans tout ce qui est le détail. J'ai pas le nez d'un chien. J'arrive pas à vraiment aller trouver les histoires. Mais au niveau abstrait, je fais ça un petit peu mieux. Et ça c'est ça ce qui m'intéressait.
D'accord. D'accord. Donc, finalement, expérience réussie. Tu rentres à l'été 2003. Et tu repars après sur d'autres endroits où
non, je me calme. À ce moment-là, je me calme. Je lance donc après ce journal, The Beirut Review of Books.
Donc à Beyrouth, tu t'installes là-bas ou...
J'essaie de m'installer à Beyrouth, mais ma femme et mon enfant qui a un an à ce moment-là, surtout, il y a pas tellement de comment on dit marche-pied, non, pavements, les le bord de la route où on peut
de trottoir
de trottoir ah, oui. il y a très peu de trottoirs pour une poussette, c'était pas évident. Donc en fait on déménage à Paris. Je lance ce journal et quoi d'autre, je lance ce journal.
Donc première entreprise avec un objectif qui était
intellectuel plutôt. Je fais ça en JV avec le plus grand journal anglais de la zone qui s'appelle le Daily Star, et je le fais avec lui précisément parce que
JV c'est joint venture, donc en association finalement.
Exactement. Et je le fais parce que le Daily Star est distribué partout dans la région par à l'époque Herald Tribune, qui maintenant appartient au New York Times, mais qui était le grand journal international anglais. Ça, fascinant. Avec l'objectif très clair, c'était que j'avais l'impression que le Moyen-Orient n'avait jamais été aussi intéressant, et aussi politique, et qu'il n'y avait aucune vraie source de traduction, que la zone elle-même, que la région elle-même n'avait pas été traduite en anglais, que c'était des journalistes blancs, un peu comme moi d'ailleurs, mais blancs, occidentaux, qui allaient là-bas, qui racontaient leurs histoires et qui revenaient, mais c'était une perspective qui était une perspective occidentale sur une région qui n'avait pas le droit de s'exprimer elle-même.
Donc tu voulais faire émerger un point de vue local à l'international.
Exact. Et la manière qui me semblait la plus amusante et peut-être intéressante de le faire, c'était à travers la culture, les livres, l'art, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Moi j'ai adoré ça. On a découvert des très bons écrivains qui ont écrit pour nous. On a couvert de tout. On a couvert le lancement d'une galerie d'art au fin fond du Caire, qui avait sur ses quatre niveaux, le niveau, le ground floor,
le
rez-de-chaussée, l'art était parfaitement convenable. Au premier étage, il était un petit peu plus osé. Et au troisième étage, c'était carrément de l'art politique. Mm-hmm. Donc, de ça jusqu'à des critiques d'exégèse du Coran. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé.
Sachant que t'es sur un truc qui est pas, un positionnement qui est pas très populaire, donc pas très controversé. Enfin, on vient pas tomber, parce que, je veux dire, dans des pays arabes, sur toute cette zone, en tout cas, très vite, que ce soit des points de vue politiques, que ce soit des points de vue, là tu le dis, un peu, soit sexuels, soit
religieux, sociaux, etc.
Ouais, il y a beaucoup de, enfin.
Donc la première chose à dire, c'est que le seul pays du Moyen-Orient, il y a un surfait de liberté d'expression, c'est le Liban.
Bon, oui. Ouais.
Il y en a presque trop. Et l'autre chose, c'est que on trichait, on écrivait en anglais, la censure passe. La censure est infiniment plus ferme en arabe qu'en anglais, bien sûr, parce que c'est une population minime qui lit l'anglais. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était la distribution de ces idées en Occident, parce que j'avais l'impression, comme je disais, que le Moyen-Orient n'arrivait pas à s'exprimer lui-même en Occident. Donc voilà, c'était ça l'idée.
Et ça a marché du coup.
Écoute,
intellectuellement,
je crois qu'on a fait un vrai travail intéressant. On a trouvé des auteurs fantastiques qui ont après fait des carrières très intéressantes. Au niveau business, moi je suis convaincu que ça a marché puisque je ne m'occupais pas de la partie business, mais c'est en fait notre partenaire qui a failli faire faillite. Donc il y a eu des très très gros problèmes à l'intérieur du Daily Star. Et donc eux ont dû complètement retrancher leurs opérations. Ils ont essayé de déménager à Dubaï. Ils ont eu tout un tas de problèmes. Donc c'est eux qui ont malheureusement qui ont arrêté la chose.
Et toi tu vis ça donc de 2004 à...
Je fais ça un an. Ça dure un an plus ou moins. Je fais ça 2003-2004. Et après je rentre en Angleterre comme chef de la section Moyen-Orient du plus vieux think tank de défense au monde, qui a été monté par le duc de Wellington en 1830, qui s'appelle The Royal United Services Institute, qui est bourré de vieux colonels obèses avec en costume 3 ou 4 pièces, qui d'ailleurs m'était assez sympathique.
Mais du coup, souvent les quand tu es là-dessus, c'est un think tank qui a des employés. Toi, tu es employé.
Voilà.
Et donc tu es employé pour les briefer sur donc le Moyen-Orient, la perception peut-être des locaux, tout ce que tu avais vu ces les précédentes années, ce que tu vois au quotidien. Et l'objectif pour eux c'est d'avoir des points de vue différents. J'ai l'impression qu'en France, pas tous évidemment, mais beaucoup, les think tanks sont plus des associations où il y a souvent, je dis pas toujours, mais souvent assez peu de permanents en fait, quoi. Ce qui est un peu, j'ai l'impression, un peu différent ici ou dans les pays anglo-saxons.
Intéressant. Donc oui, nous on était un bâtiment très très beau à côté de Downing Street, en plein centre de Londres, et on était nombreux. On avait une section vraiment défense, très très lié au ministère de défense ici en Angleterre, et une section, si tu veux, études, où tu avais chef de Russie, chef du Moyen-Orient, chef de l'Afrique, chef de l'Asie, chef de l'Amérique latine, etc. Et donc on était un petit groupe de penseurs, est un gros mot pour ce qu'on faisait, mais j'ai lancé quelques petits programmes pendant que j'étais là, surtout sur le terrorisme, un mot que j'ai toujours trouvé très bête. Et donc, ce que j'essayais de faire moi, c'était de monter un programme puis parler de la radicalisation, du processus de radicalisation plutôt que du terrorisme comme fait.
Sachant que pour remettre en perspective, 2005, c'est les attentats de Londres. 2004, je crois, c'était en Espagne, il me semble. Donc, on est quand même dans quelque chose. 2001, évidemment, le World Trade Center. Après, tout ce qui a touché plus l'Europe continentale et la France particulièrement, ça revient presque 10 ans après. Mais là, on est dans quelque chose où à Londres, c'était très prégnant. Enfin, il y avait.
Exactement. Et il y avait comme il y a eu aux États-Unis et comme il y a eu autre part en France aussi, je le sais, il y a eu une réaction très très court-termiste et pas du tout utile de démonisation de l'acte plutôt que d'attendre donc ceci est un acte terroriste et donc
il faut une réaction immédiate
exact et puis surtout c'est un mal absolu plutôt que de penser au processus derrière, à la radicalisation, à ce qui amène quelqu'un à prendre une position pareille, etc. Et là j'ai passé beaucoup de temps avec des penseurs français parce que j'ai toujours eu l'impression que les penseurs français sur la radicalisation, le terrorisme, etc., avaient une approche beaucoup beaucoup plus nuancée que l'approche à la base anglo-saxonne. Entre autres parce que il y a une immense population arabe en France, il y a une grande connaissance du pays, enfin de la région, pas du pays. Et donc j'ai fait venir pas mal d'intervenants français dans un contexte très très privé et très, enfin pas secret mais privé, avec l'ambassade du Qatar, l'ambassade de l'Espagne, l'ambassade du Maroc, l'ambassade du Koweït et autres, pour créer un vrai discours sur ce que j'appelais the Transnational Terrorism Project, pour compliquer cette idée du terrorisme. Donc ça, j'ai fait ça un an et je dois dire que ce processus-là, j'ai beaucoup aimé, mais à part ça, j'ai passé beaucoup trop de temps avec des ambassadeurs et des gens en costume 3 pièces Et je me suis dit qu'en fait, au niveau intellectuel, c'était limitant, puisqu'on parlait toujours dans un discours qui avait été formé par d'autres, si tu veux. Et c'était un discours avec lequel je me sentais pas vraiment confortable. Donc c'est à ce moment-là que je reçois une bourse de NYU pour faire un doctorat sur l'anthropologie de la religion aux États-Unis.
Je fais juste une petite pause avant de venir sur ce point très intéressant. C'est assez marrant parce que tu viens sur tu dis le côté limité intellectuel avec des ambassadeurs. Alors c'est sur ton travail autour de ça, mais pour moi c'est vrai que peut-être que je sacralise un peu. Je me dis que les ambassadeurs, en tout cas sur le niveau géopolitique, la connaissance, le côté un peu de recul, parce qu'ils ont pas un rôle, je veux dire, ils sont les mains dans le cambouis local, mais c'est plus un rôle de représentation aussi, de réflexion. Pour moi, un ambassadeur, intellectuellement, c'est quelqu'un d'intéressant quand même. Je te vois hésiter.
Ils ont un rôle... je connais des ambassadeurs absolument brillantissimes. Je crois qu'ils sont très rares, parce que la majorité du boulot d'ambassadeur maintenant, c'est vraiment un boulot politique, courtois. Et quand ils deviennent ambassadeurs, ils sont souvent assez fermes dans leurs idées. Ils n'ont plus nécessairement la flexibilité intellectuelle de pouvoir repenser tout un système politique. Et à mon avis, enfin, à ma perspective à l'époque, c'était que 2001 a vraiment forcé. C'était le début d'une nouvelle période politique pour nous tous en Europe et en Occident, qu'on a très très mal pris, et qu'on a très mal géré, et on aurait dû vraiment repenser de manière beaucoup plus rigoureuse et intellectuelle les systèmes intellectuels pour repenser ce qu'on vivait. Et ces ambassadeurs, pardon, c'est une question, une réponse très très longue.
Oui, non,
c'est très bien. Je ne vais pas être très impressionné par.
Je trouve ça passionnant. Je veux dire, si je lis entre les lignes ou si je reformule, ils ont pas de notion de, mais c'est vrai, d'efficacité. C'est des gens qui sont là, ils apportent une position, mais ils vont pas changer. Je sais pas, l'ambassadeur de France au Maroc, ils servent pas à grand chose.
J'imagine qu'ils servent tous à beaucoup, mais ce qui me désolait surtout dans le contexte précis du programme que j'essayais de monter, c'est que j'invitais tous les ambassadeurs de ces ambassades et je leur demandais d'inviter des grands experts de chez eux pour des grosses réunions, Chatham House Rules, très privées, etc. Et dans presque tous les cas, c'était les ambassadeurs qui se tenaient le droit de parler plutôt que de laisser aux experts le droit de la parole.
D'accord.
Et le discours de l'ambassadeur est toujours politique, est toujours pensé de manière diplomatique, et n'est pas nuancé intellectuellement, ou rarement.
Ok. Revenons sur le PhD et la période donc new-yorkaise. Donc là, tu te dis après quelques années, donc ça fait quoi, 5-6 ans que t'es sorti d'école, 6-7 ans.
Ouais. Je vais avoir 28 ans, 29 ans. Je suis nul comme journaliste. Je suis nul comme politologue. Je suis plutôt nul comme éditeur de bouquins. Je me dis, il faut que je trouve autre chose.
Et du coup, t'es perdu?
Mais vraiment, mes années 20, j'ai essayé de comprendre comment avoir de l'impact. Mm-hmm. Et donc, j'ai un peu tout essayé, le journalisme, édition, tout ça dans un contexte assez verbal, si tu veux. Mais un contexte verbal, jouant avec des idées. Donc j'avais pas mal de choses différentes. J'ai l'impression d'être très pompeux en racontant ma vie comme ça.
Mais
c'est sûrement le cas. Donc à un certain moment, je me dis tiens, peut-être que l'académie m'irait, peut-être que ça me ferait du bien. Et donc très très généreusement aux États-Unis, il y a des très très belles bourses.
Oui.
Et donc je vais à NYU et là je
anthropologie
de la religion, anthropologie de la religion. Pareil, ce qui m'intéresse, c'est, j'avais pas mal travaillé maintenant donc sur la radicalisation, le rôle de la politique, le rôle de la religion dans la politique au Moyen-Orient, et où d'autre de meilleur que d'aller passer du temps aux États-Unis pour voir précisément le même phénomène. Le rôle de la religion dans la politique américaine est immense. Et donc, c'est un contexte parfait pour regarder, si tu veux, le revers de la médaille. Donc là, j'ai fait ça pendant un an et très heureusement, je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, je n'ai pas la tête à être professeur, à être grand académique de toute manière. Deuxièmement, ma femme est tombée enceinte, donc on a décidé de ça n'avait plus de sens. Donc rentrer à Londres et là, pas crise de conscience ou c'était pas que j'étais perdu, mais ayant fait maintenant journaliste, politologue, éditeur et académique raté, je me suis demandé si en fait au niveau d'impact, la meilleure manière ne serait pas de faire du business. Et donc je passe avec un ami que j'avais rencontré en Irak d'ailleurs, je passe du temps en Afghanistan, je passe du temps un petit peu de temps en Asie centrale, et petit à petit, je me rends compte que j'essaie de monter donc deuxième business.
Donc tu as un deuxième enfant et tu dis bonne idée, je vais aller en Afghanistan.
Voilà. Tu vois qu'il y a.
Et ta femme se dit, il se fout de ma gueule.
Exact. L'Irak pour le premier, Afghanistan pour le deuxième. Donc, quoi ?
Tu as pris un t-shirt rose, une casquette blanche.
Exact. Je me suis rasé, surtout, pour ne pas avoir de barbe.
Qu'est-ce que tu fais en Afghanistan, du coup ?
Tout ça semble un peu rocambolesque. En Afghanistan...
Ta femme parle français ou pas ? Parce que...
Non, je ne veux jamais lui dire.
Elle ne va pas écouter ce podcast, c'est dommage. Je vais le faire traduire.
En Afghanistan... On cherche des, ça semble absurde. On cherche des mines de iron, de fer,
oui.
et de cuivre, avec un géologue sud-africain, avec à base de données de vieilles cartes soviétiques qu'on trouve dans la bibliothèque à Kaboul. Ça c'est assez amusant et ça ne marche pas. On essaie on s'imagine un projet immense d'hydroélectricité entre le Kyrgyzstan et le Pakistan qui ne marche pas aussi.
Comment t'es financé du coup à ce moment-là ? Tu vis de rien ?
Non, là, donc cet ami à moi que j'avais rencontré en Irak avait lui été financé, très bien financé par un très grand entrepreneur, en fait un grand trader,
okay.
qui montait des business un petit peu partout dans des endroits un peu particulier.
Ok, d'accord.
Et donc, on était financé par lui pour trouver d'autres business en Afghanistan.
C'est quand même un changement assez radical, c'est-à-dire passer de là du potentiel, t'as shifté sur un truc où tu passes de New York sur un truc assez académique, comme tu le disais, à aller chercher des mines en Afghanistan.
C'est vrai. Tu n'es pas le premier à se demander si c'était intelligent, mais
c'est un shift très business, je veux dire.
C'est un shift très business et je me dis non, il faut c'est avec le business que tu auras un impact et ça a un sens dans 6 mois ça aura un sens. Mais je voulais comprendre comment ça marchait. Une expérience absolument fascinante et du point de vue intellectuel. Ça m'a complètement ouvert les yeux parce qu'en tant que journaliste, tu vas voir le ministre des mines et tu lui demandes ce qui se passe. Il te dit absolument rien avec un grand sourire. Et en tant que businessman, tu vas voir le ministre des mines en Afghanistan et tu lui demandes ce qui se passe. Il te raconte absolument tout. Et je me suis finalement rendu compte que le journalisme avait un désavantage immense dans toutes ces interactions. Les choses que en tant que personne qui fait du business, les choses qu'on m'a racontées, comparées à ce que j'ai su en tant que journaliste, sont absolument incomparables.
Oui, parce qu'ils savent que ça va pas sortir forcément de la pièce ou d'accord.
Et de voir avec tes propres yeux de la corruption, mais de la plus banale, des valises de dollars. J'ai vu des valises de dollars changer de main. Absolument fascinant. Ça, en tant que journaliste, tu le vois jamais. Donc, en fait, en tant que personne qui fait du business, tu rentres vraiment dans les entrailles de comment fonctionne un pays. Et ça m'a sidéré. J'ai trouvé ça fascinant. Donc, Donc j'ai fait ça, j'étais en Afghanistan pendant un petit bout de temps, et après j'ai essayé de monter un immense deuxième business, un immense une plantation de biodiesel au Ghana, parce que premièrement pour des raisons, surtout pour des raisons écologiques, mais j'étais convaincu que c'était un très 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 bon business. Donc je passe longtemps à créer.
On est en quelle année là? 2008 ou
ouais,
par là.
Ouais. Non, 2007. 2008.
Biodiesel au Ghana. D'accord.
Fascinant. Très, très, très intéressant. Et.
Ghana, pourquoi?
Ghana, parce que c'est stable, parce que c'est parce que il y a un vrai cadastre de terre, ce qui est un grand problème partout en Afrique de l'Ouest. Et puis, parce que il s'avérait qu'on avait des contacts là-bas. Et ça, c'était fascinant, ça n'a pas marché. Passé pour des raisons compliquées, mais ça n'a pas marché. Donc, on n'a jamais vraiment pu
planter.
Vous avez planté?
Non. D'accord, ok. C'est resté à l'état de business plan.
Exactement, avec le chief of staff du président et le ministre rural de travaux, etc., etc. Mais.
Est-ce que c'est pas un mal, alors j'ai eu un ou deux projets avortés comme ça en Afrique où justement avec des représentants assez haut placés dans certains pays ou des ministres ou des où finalement on arrive à faire des plans, on se voit beaucoup et puis finalement il se passe rien derrière. Est-ce que c'est pas un truc qui arrive souvent? Je pose la question.
Dans mon cas, c'était de ma faute.
D'accord.
C'était vraiment pas de la leur.
Okay.
C'était que mon backer financier a changé les termes du deal.
Okay.
À la dernière minute, ça n'avait plus vraiment de sens. Mais je crois que lui, il a changé les termes du deal parce qu'il n'était pas convaincu que ça puisse marcher. Donc je crois que lui m'en veut, moi je lui en veux et le projet ne s'est pas fait. Okay. Mais c'était entièrement de notre faute. Non, j'ai des grands amis qui font beaucoup beaucoup de travaux en Afrique et font avec grand succès. Mais donc, après ça, on arrive... Qu'est-ce que ça nous a pris longtemps, je suis désolé. On arrive au moment où finalement, toi et moi, on fait la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire que en 2007, je commence à me rendre compte qu'il y a un truc qui s'appelle l'Internet. J'ai 10 ans de retard au plus. Mais il n'y a pas beaucoup d'Internet au Ghana ou en Afghanistan, en Irak. Donc j'ai des excuses. Et je me dis, pareil, dans ce contexte dont je te parlais avant, qui a toujours été un petit peu une idée de comment faire parler des gens qui sont l'objet des nouvelles plutôt que qui n'en sont jamais le sujet.
Mm-hmm.
J'ai créé ce que je pensais être une plateforme de liberté d'expression qui s'appelait Demotix.
Donc Demotix.
Exact, avec cette idée de démos, démocratie, et de démotique qui bien sûr veut dire du peuple. Et donc je voulais faire une plateforme de liberté d'expression qui permette aux Maliens de raconter des histoires maliennes, aux Laotiens de pouvoir raconter des histoires du Laos, etc. et de ne pas avoir besoin de se faire traduire, je répète cette idée maintenant vieille, de se faire traduire ou de se faire représenter par des gens qui ressemblent à moi, donc grands, blonds, yeux bleus, etc. occidentaux. Donc voilà, c'était ça l'idée de base. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que toi, tu avais monté exactement la même chose un an plus tôt, même deux ans plus tôt,
deux ans plus tôt, exactement, ouais.
Avec CitizenSide.
Exactement. Et en effet, on était sur un moment où tout le monde regardait tout ça de loin, et les journalistes particulièrement, à se dire, souvent d'ailleurs, hein, une vraie crainte de se dire... nous, on jouait un petit peu là-dessus sur CitizenSide en disant... tous journalistes, ce qui était un petit peu... ce qui était évidemment rentré... L'idée, c'était de la communication plutôt que... Parce qu'on savait que les remarques qu'on nous faisait en face, c'était dire... C'est comme si on dit tous chirurgiens, en fait. Un journaliste, il est formé, il a un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'était plus tous témoins, en fait. Et on est tous témoins d'un certain nombre de choses qu'on peut partager... des choses intéressantes, des choses visuellement. Je peux prendre un exemple. Hier, j'arrive à Londres, je vois un type, je sais pas si c'est que pour un Français qui vient ici, ça doit pas arriver souvent, mais un bus qui est en panne, avec une grosse dépanneuse devant, ils l'ont soulevé, ils ont mis des briques sous les roues avant, et juste des briques toutes simples, et il y a un type qui est allongé sous ce bus de deux étages gigantesque, tu prends la photo et tu te dis, c'est un petit témoignage, c'est pas grand chose, mais c'est impressionnant, tu vois, je dis, est-ce que j'irais me coller sous ce bus-là, même si probablement il y a aucun risque, mais quand même, faut être sûr. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, dans le quotidien, tu vois des tas de choses, et tu peux aller. Alors aujourd'hui, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a tout ça. Le problème de ces plateformes, c'est qu'en fait, les gens ont une tendance à poster sur les réseaux sociaux. Donc du coup, est-ce que poster sur Demotix ou CitizenSide a un autre intérêt ? L'intérêt était pour nous aussi de licencier, de revendre potentiellement ces documents et de se dire qu'ils avaient une valeur potentiellement financière, ce qui est le cas, puisqu'ils font vivre... Instagram ou Twitter et des médias aussi dans l'ancien monde. Et Demotix, tu lances ça tout seul, l'idée devient comment comment tu, après tout ça, je veux dire, quand tu viens du Ghana pour faire du biodiesel, comment tu rentres dans la tech, comment tu t'as un avantage, c'est d'avoir été journaliste, photo-reporter, ouais, d'avoir fait du terrain, ce qui doit aussi te donner un peu de crédibilité parmi tes pairs, mais c'est quoi l'histoire, comment ça se passe?
Moi, on se gourre, on dépense pas mal d'argent très mal au début, parce que précisément, j'ai pas la moindre idée comment fonctionne la technologie, mais on apprend assez vite. Je fais rentrer un de mes vraiment plus vieux amis, un type que j'adore, qui est brillantissime et en fait macroéconomiste, donc il n'avait absolument rien à faire là-dedans, mais ça l'amusait.
D'accord.
Donc il est devenu mon partenaire, Jonathan Tapper, qui était un dieu que j'adore, on reste très 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 proches. Ouais, donc on crée une plateforme, on lève un peu d'argent, Friends and Family.
Combien, à peu près?
500, je crois.
OK.
500, 600. Au total, un tout petit peu plus. Mais pas grand-chose. Faut pas oublier qu'on est en 2008. Donc, presque impossible de lever de l'argent. Et là... On monte le business avec cette idée qu'on peut créer un brokerage qu'on peut vendre
une place de marché
ouais, exactement, entre les journalistes partout dans le monde et les médias internationaux. Donc exactement ce que fait CitizenSide, mais avec votre focus était plus la France, je crois, au début. Le nôtre était plus international.
Ouais. On essayait, évidemment, mais c'est d'ailleurs une des problématiques et un des avantages de Londres, hein, c'est que t'es en anglais, t'as une population très internationale à Londres, de gens qui viennent du monde entier, qui parlent toutes les langues et qui parlent surtout anglais. Quand t'es en France, t'as une tendance à faire un business d'abord en français, après en anglais. Donc, c'est vrai qu'on essayait. Après, on a fait quelques partenariats en Angleterre. Nous, on avait une approche aussi qui était très plateforme, c'est-à-dire qu'on essayait de vendre notre outil à des médias, donc on a fait quelques partenariats avec des médias anglais, mais je pense que la difficulté de la France était quand même le fait que tu as une tendance très franco-française, quelque chose qu'on aborde assez souvent sur ce podcast, avec de plus en plus de startups qui vont directement à San Francisco, ou peut-être aussi devraient être plus simplement à Londres, en fait,
ouais,
pour avoir un focus, ou alors rester à Paris, mais parler anglais directement, c'est-à-dire notre focus est anglophone, quoi, parce que...
C'est triste, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Toujours est-il, je crois que tous les deux, toi et moi, on s'est rendu compte que c'était un business difficile,
ouais,
parce qu'on se battait contre une oligopolie, en fait, une oligopolie assez serrée. Tu avais l'agence, tu avais AFP un peu, avec qui vous avez fait un gros partenariat.
Qui était actionnaire
chez vous, bien sûr, ouais. Mais il y avait aussi, surtout Getty Images, Corbis, Reuters,
AP,
ouais, en fait, et qui avaient des contrats qui, eux, étaient dans un moment de grande crise, parce que le journalisme était en moment de grande crise et reste un peu dans un moment de crise. Et donc c'est difficile de rentrer dans une oligopolie de ce genre-là. Je crois que tous les deux, toi et moi, on a un peu galéré. Et puis ça a commencé à marcher. Mais on s'est rendu compte après 2 ou 3 ans que ce serait impossible de lever assez d'argent pour vraiment créer un Salesforce, un réseau de vendeurs qui serait assez grand pour vraiment faire compétition aux gros. Donc on a fait nous aussi un partenariat. Donc on a pris Corbis, qui était la boîte de Bill Gates d'image, comme actionnaire, et eux se proposer de vendre ce qu'on faisait aux États-Unis où on avait peu de présence. Donc on a fait ça et finalement, après des péripéties pas toujours agréables, j'ai vendu la boîte entièrement.
Je pourrais rappeler le fondamental du business quand même, hein, c'est donc de recevoir des photos et vidéos d'amateurs et de les revendre, je caricature, hein, mais non, non. De les revendre aux médias dans le monde entier. Donc en gros, une marketplace où chacun peut être témoin d'un événement. Je pense qu'on a tous les deux très bien couvert, par exemple, tout ce qui est printemps arabe. Et puis évidemment, dans les événements, je sais pas à quel point vous en faisiez. Nous, on en faisait par la force des choses, mais tout ce qui est célébrité et voilà, couverture d'événements aussi potentiellement que là où nous on était fort, enfin nous, toi et Demotix et CitizenSide, c'était là où le hard to reach, quoi, là où il y avait pas de journaliste, parce qu'évidemment quand tu fais un festival de Cannes, on recevait plein d'images, plein de choses, mais il y a tout le monde qui est là et tous les staffers, les employés des grosses agences et tout le monde est là sur le tapis rouge, donc tu sors pas quelque chose d'extraordinaire. En revanche, quand t'as une météorite qui arrive quelque part, une bombe qui explose quelque part, un bus qui rentre dans une banque ou un, évidemment là-dessus, un pont qui s'effondre en Italie, bon ben on voit d'ailleurs les différences de d'images que tu peux avoir. Le même jour, il y a un pont qui s'effondre en Italie et en Angleterre, il y a un type qui rentre à Londres ici, hein, qui rentre dans le public. Et finalement, les CCTV, les caméras de anglaises captent toute la scène et en Italie, on voit zéro image parce que tout ça est... Donc ça doit être généralement filmé par des amateurs, un certain nombre de choses. Et donc l'essor du téléphone portable, ça paraît évident assez aujourd'hui, mais ça ne l'était pas forcément à l'époque. Et le fait qu'on ait tous une caméra toujours sur nous change pas mal la donne. La difficulté qu'on a potentiellement, c'est pas forcément d'avoir des images, c'est plutôt ce que tu disais, c'est de les vendre en fait. Parce que tous les gros médias ont des abonnements auprès des grosses agences et que nous, on peut pas forcément vendre des abonnements parce qu'on n'est pas nécessairement sur tous les events qui se passent. On n'a pas les accréditations pour toujours. Voilà, on est sur le hard to reach et pas le flux quotidien de tout ce qu'il faut. Et donc tu revends à Corbis.
Exact.
Donc qui est venu en deux temps, c'est-à-dire d'abord un investissement puis une revente.
Exact. Donc ils sont venus en tant qu'investisseurs. Mais surtout, on les a pris parce que eux avaient une force de vente immense aux États-Unis, et donc on a travaillé avec eux et ils ont acheté aussi un call option, donc le droit d'acheter sur une période de 2 ou 3 ans.
D'accord.
Et à la fin, ils nous ont acheté après 1 an et demi et on a repris toute la boîte.
D'accord.
Et à la fin, on était 75 000 sur la plateforme, donc il y avait pas mal de gens et des millions d'images. Et donc, je l'ai vendu, je suis resté encore 6 mois, mais on avait déjà travaillé ensemble pendant 1 an et demi, donc le processus on se connaissait déjà, on savait ce qu'on faisait. Et puis après, j'ai quitté, sans grand regret, je dois dire, avec un regret pour la communauté incroyable qu'on avait créée, mais qui allait continuer. Mais surtout, j'avais un peu compris que la technologie avait changé la donne. Chose exactement dont tu parlais maintenant, toi. Ce qui est que si je recrée CitizenSide ou Demotix, je le ferais déjà sur une plateforme existante.
Oui.
Donc, on n'avait pas besoin, il s'avère, de créer ce réseau immense de personnes. Si tu peux utiliser Twitter ou Instagram ou autre chose, ce que fait d'ailleurs pas mal de boîtes maintenant,
oui.
de manière plus rapide.
Ce qui est intéressant, c'est, alors je trouve qu'il y a pas mal de choses personnellement dont j'ai tiré de cette période. Sur le très opérationnel, c'est le fait que, en effet, les gens étaient, nos communautés étaient vraiment intéressés à participer. Donc ça marchait du côté de l'offre. Sur le côté de la demande, c'était pas si simple. Le côté, on a réussi à avoir une grosse communauté, à avoir des photos, des images, etc. Et toi et nous, à vivre ensemble, c'était moins facile du côté des médias. Mais donc les gens sont prêts à participer, à envoyer des photos, des images, ce qui donnera d'ailleurs chez moi cette envie de créer WeFlash, qu'on a créé presque 10 ans, finalement 10 ans après CitizenSide, et qui est un vrai carton et qui là vend plutôt des images pour des agents immobiliers, pour des Uber Eats, pour des corporates qui vont acheter des shootings photos en masse. Je crois qu'on shoote 350 shootings par jour aujourd'hui, donc c'est beaucoup. Mais voilà, et donc on n'a pas de problème de communauté. En fait, fallait trouver un marché en face qui n'était pas le marché des médias, qui est un marché qui a un vrai besoin d'image quotidien et d'une communauté professionnaliser quelque part un petit peu ou en tout cas efficace et quali. Les autres je pense aspects, et je sais pas si c'est les mêmes choses que tu as pu voir, mais opérationnel, c'est que en effet les médias sociaux ont changé la donne, qu'on peut aller chercher des gens ailleurs et plus facilement désormais, mais qu'on était aussi potentiellement peut-être un peu trop tôt. Alors c'est toujours un peu bizarre de dire on était trop tôt sur un marché, mais le time to market, quand même, moi, je pense que sur WeFlash, on est arrivé pile poil au bon moment. Et c'était 10 ans après CitizenSide, et le business est quasiment le même, finalement. C'est juste que l'offre et la demande sont pas, enfin, l'offre est la même, la demande est pas la même. C'est-à-dire que c'est toujours des photographes d'un côté, et de l'autre côté, c'est d'autres types de clients. Mais le time to market en 2015 est parfait, 10 ans après une idée qu'on a eue en 2005. C'est quand même fou.
C'est drôle. C'est très drôle. Ouais.
Et je pense que le, bizarrement, alors tu peux changer, mais souvent des idées qui ont déjà existé il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans, et ben tu peux les reprendre et te dire ça n'a pas marché il y a 10 ans, mais aujourd'hui le marché est prêt, quoi.
Fascinant. À mon avis, dans le cas de WeFlash, qui est un business fantastique, c'est aussi parce que vous êtes en train de focaliser sur le bon marché. Les news, toi et moi, c'est un marché très très difficile, qui est difficile depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une opportunité immense de temps en temps, mais je crois qu'on aurait pu faire, en repensant tout ça, ça a bien marché pour moi, ça a bien marché pour toi, ça, c'était des réussites ces deux boîtes dans leur monde. Mais on le referait de manière différente, et on le referait peut-être avec un marché différent, avec une technologie beaucoup, beaucoup plus légère. Non. C'est pour ça que l'avantage de l'entrepreneur, c'est que tu peux en faire plusieurs de ces choses.
Et alors, il y a une autre chose qu'on a fait de nos deux côtés. Toi, tu t'es associé capitalistiquement, donc comme avec Corbis, donc comme actionnaire. Moi, je l'ai fait avec l'AFP. Et en ce qui me concerne, l'AFP n'a pas racheté CitizenSide. Et finalement, dans cette optique, ça m'a coûté. Et je pense que, alors, je l'analyse comme une erreur quelque part. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait rentrer l'AFP, alors, et ça, pour tous ceux qui entreprennent, qui nous écoutent ou qui veulent entreprendre, faut faire très attention quand on fait rentrer un industriel dans son capital, parce que les options dans un pacte d'actionnaire assez traditionnel, c'est de dire, oui, il investit 1, 2, 3 millions d'euros dans ma boîte. C'est normal, comme tu disais, une option, un put. Donc, c'est normal que si jamais il a envie de racheter le reste, il soit prioritaire. Ça semble assez logique puisqu'il met de l'argent. Cela dit, quand moi, j'ai eu un concurrent de l'AFP, assez gros américain, qui n'est pas Corbis, qui a commencé à s'intéresser à CitizenSide, et qu'ils ont fait ce qu'on appelle une due diligence. Donc, ils ont commencé à regarder un peu ce qu'on avait sous le capot, comment ça marchait, qu'ils ont vu notre pack d'actionnaires, et qu'ils nous ont rappelé en nous disant, oui, mais en fait, moi, je vais te proposer un prix, je vais bosser, je vais regarder tout ça, je vais passer 2 mois, 3 mois, 6 mois, je vais te faire un prix en disant, je te rachète tant, mais derrière, l'AFP, à ce prix-là, est prioritaire, puisqu'il y a un droit de cession prioritaire, donc au prix que quelqu'un propose, mon actionnaire actuel est prioritaire. Et du coup, ils se sont retirés, avant même de continuer et de finir la due diligence, alors qu'il y avait un intérêt. Je dis pas qu'ils auraient acheté la boîte, mais ils se sont retirés. Donc du coup, en fait, tu limites le champ des possibles en donnant à quelqu'un qui est industriel un intérêt, parce que tous ses concurrents ne veulent plus, en fait, s'intéresser à toi, parce qu'ils se disent qu'ils vont faire son boulot dans la due diligence. Je sais pas si je suis clair.
Totalement, totalement. C'est absolument vrai. Et maintenant, je suis investisseur, ouais, comme toi. Et on regarde ce genre de situation de manière très, très, très près. Dans le cadre d'Emotix, moi, je savais déjà que je vendais ma boîte à Corbis quand je les ai laissés s'investir. Mais ça n'a toujours pas été de la tarte. C'est-à-dire que on avait une série de promesses de leur part et de milestones de la nôtre, des promesses que eux n'ont pas vraiment tenues. Et donc, il y a eu toute une série de bagarres après, parce que sachant très bien que eux avaient ce droit de call option, ce droit d'achat, moi, ce qui me, la raison pour laquelle on s'est finalement battu et Corbis m'a racheté plus tôt que prévu, c'était que comme eux maniaient très très mal les ventes aux États-Unis, je le dis maintenant, mais c'est il y a très longtemps, mais eux ne faisaient vraiment pas d'efforts pour nous vendre aux États-Unis. Donc avec nos deux employés de vente ou trois employés de vente en Europe, on faisait deux fois ou trois fois plus que eux faisaient aux États-Unis. Donc j'étais furieux. Je me suis dit, il y a de la politique à l'intérieur. Eux veulent m'acheter, mais me veulent m'acheter dans deux ans ou trois ans sans ayant vraiment accéléré les ventes. Comme ça, ils auront besoin de me payer moins, etc. Donc à certains moments, je pique une crise et alors je leur dis, laissez-moi me racheter moi. Parce que vous êtes en train de détruire ma valeur aux autres concurrents. Donc, on est exactement dans le même contexte. Et c'est à ce moment-là qu'eux disent non, on vous achète.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ce qui s'est passé, mais c'était une bagarre.
C'est en tout cas, voilà, je pense que ce qu'on peut tirer et ce qu'on doit, parce que c'est aussi l'objectif ici, mais dire à tout le monde, c'est que quand on laisse un industriel rentrer, il faut soit avoir une vue assez claire sur le fait qu'il va te racheter. Et que il faut pas trop dépendre de lui, parce qu'en fait, un gros industriel, un gros groupe, vis-à-vis d'une start-up, il respectera pas ses engagements. Ça doit arriver de temps en temps, mais généralement, sa priorité, c'est son gros business. Toi, t'es une toute petite microscopique start-up, et que en fait, les engagements qu'il peut avoir vis-à-vis de toi, dans l'absolu, tu t'es vraiment très peu sûr qu'il les respecte. Donc, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Et par ailleurs, idéalement, il faut lui faire, et je pense que c'est même plus qu'idéalement, il faut absolument lui faire accepter que il a pas d'option d'achat prioritaire, parce que en fait, à la fin, il te rachète à un prix de marché, c'est son intérêt. Plus il va te racheter cher, plus les actions, s'il a acheté 30, 40, 50% qu'il a acheté à un certain moment, auront pris de la valeur. Et donc, en effet, il aura toujours fait une bonne affaire, puisque s'il achète une boîte dans laquelle il est rentré, elle valait 10 millions, et à la fin, il l'achète 200, eh ben, il aura pris peut-être 40% à 10 millions, et les 60% à 200. Mais il aura toujours fait une très bonne affaire sur ces 40%. Et c'est son intérêt à un moment. L'intérêt de se dire, je suis rentré à 10 millions et je vais acheter le reste à 2, il aura perdu sur les 40% qu'il aura acheté à 10 millions.
C'est vrai, mais toi et moi et tous nos amis ensemble ne réussirons jamais à expliquer tout ça à
mais un si, corporate. J'y crois. D'accord. Donc là, tu cèdes Demotix. C'est ta première vraie entreprise. Enfin, t'as le Beirut Review of Books, qui est une entreprise intellectuelle aussi, qui a pas un gros objectif business. T'as plusieurs tentatives, donc où finalement tu vas jusqu'au business plan, tu vas rencontrer des gens, tu sers des paluches, mais il y a rien qui rentre dans le concret. Mm-hmm. Ta première boîte, t'arrives à faire quand même quelque chose d'assez fort, qui marche bien, qui est revendu. Et là, t'as changé complètement de... En tout cas, t'es rentré dans le business, full business.
Ouais.
Le reste encore là. Je veux dire le je sais pas, les langues, l'anthropologie de la religion.
Tout absolument.
Ouais.
Absolument. Merci pour la question. Donc oui, après, je vends Demotix, je commence à faire des tout petits investissements moi, mais surtout en tant que en tant que advisor investor dans des startups médias en Angleterre. Et puis là, je suis maintenant dans un VC, dans un fonds d'investissement qui s'investit vraiment dans les startups médias et de technologie média qui s'appelle North Base Media.
Que tu as cofondé, hein?
Que je n'ai pas cofondé, que j'ai joint. Mais vraiment tout au début. Donc, il y a deux fondateurs. Un était l'éditeur en chef du Wall Street Journal et du Washington Post, un type absolument fascinant et fantastique qui s'appelle Marcus Brockley. Et l'autre est quelqu'un de tout aussi fascinant, même avec une carrière incroyable, qui lui fonde dans les années 90 la station radio qui se bat contre Milosevic pendant la guerre en Yougoslavie.
Okay.
La seule radio indépendante, la seule source de nouvelles vraiment correct pendant cette période-là, et qui lui après fonde un autre fonds qui investit dans les médias pendant 20 ans. Donc ça, lui s'appelle Sacha Vucinic, un type phénoménal. Donc, eux, ce sont les deux fondateurs. Le troisième partenaire s'appelle Stuart Carl et lui était le Chief Operating Officer de Reuters, un type brillantissime avocat que j'adore. Et puis moi, je rentre comme quatrième partenaire. Mais j'apporte bien sûr expérience startup et sur toute une série de médias différents. Donc, on est quatre. Et là, on investit dans tout ce qui est médias, Series A et Seed et Series A. Donc, voilà ce que je fais maintenant comme... ça, c'est ma, si tu veux, c'est ma femme. Mm-hmm. Et puis après, pour répondre à ta question, si d'autres choses continuent à jouer, j'ai une maîtresse, mm-hmm. comme bon français. Et là, je suis en train de monter un autre projet, si tu veux, plus mental, mais démotique, mm-hmm. comme Citizen Insight. Mm-hmm. C'était un projet politique tout autant que business. Et là, je montre un truc que j'appelle pour le moment Parly. Parli.co et ce que je veux être une sorte d'atlas d'idées. Je veux créer une sorte de Wikipédia des opinions. Tu sais, après 2016 qui m'a beaucoup peiné, on a eu Brexit en Angleterre, il y a eu Trump aux États-Unis, il y a eu un référendum en Italie qui est passé du mauvais côté, il y a eu un autre référendum en Colombie qui est passé du mauvais côté, il y a une poussée du nationalisme, il y a une poussée d'une sorte de radicalisation de la pensée des deux côtés, de la gauche et de la droite en Angleterre maintenant au moins, mais pareil en France. Je me suis dit qu'il y avait un problème dans la manière qu'étaient représentées les idées. Pour Brexit, on a eu quand même 3 mois d'un bus qui disait qu'on allait redonner 350 millions de pounds au service de santé ici, qui était un mensonge monstrueux, un immense mensonge, qui était peint sur un fucking bus, comme on dit. Et on ne réussissait pas vraiment à dominer cette rhétorique, à vraiment cadrer les idées qui étaient, surtout les idées politiques. Et donc, j'essaye de créer, si tu veux, une sorte d'accélérateur pour les idées, pour que quand il y a un nouveau massacre dans une école aux États-Unis, on ne soit pas à des millions à se hurler sur la gueule sur Twitter, qu'il y ait un endroit où on puisse dire voilà les arguments contre le contrôle des fusils, voilà les arguments pour, ils sont là, on les sait, ils sont simples, maintenant rentrons dans l'acte, si tu veux. Donc je conçois ça à la base comme projet, si tu veux, intellectuel, mais aussi comme Demotix. Je suis convaincu que pour vraiment avoir de l'impact, tu dois travailler dans le business. Faut que ce soit soutenable, sustainable. Et donc, et si tu regardes Wikipédia, par exemple, Wikipédia fait, je crois, 500 millions de recherches de page views par jour. Si c'était monétisé, ce serait une des plus grosses boîtes au monde.
Fort heureusement, ça ne l'est pas.
Fort heureusement, ça ne l'est pas. Exact. Mais il y a peut-être des moyens de repenser comment créer quelque chose de similaire sur un fondement pro-business ou sur un fondement simplement business, mais avec peut-être une approche à la propriété, comme tu dis, non, ownership.
Propriété intellectuelle ou non?
Non, même de l'appartenance, à qui appartiendrait cette boîte. Donc, je suis en train de penser à un modèle de coopération, je suis en train de penser à toute une série d'autres choses. Mais donc, Parly existe, on est en closed beta.
Bêta privée. Okay.
Bêta privée, donc vous...
Parly.io, ok. Parly.co, pardon.
Donc si tes auditeurs ça les intéresse, je les ferai rentrer avec plaisir et on verra ce que ça donne. Donc voilà ma maîtresse.
D'accord. Et du coup je reviens aussi 2 secondes. Alors c'est vrai que Parly j'ai l'impression aussi que c'est une maraude, c'est-à-dire que c'est un projet qui tourne et que personne n'a encore réussi à casser le code sur quelque chose comme ça. J'ai entendu des projets en France, alors c'est sur du débat, mais c'est un peu pareil. Il y a un projet qui s'appelle, c'est le Dranche, je crois. Donc c'est un mélange de droite, centre, gauche, Dranche, droite, centre, gauche, d'accord. Et donc avec aussi débat d'idées justement, et avoir les points de vue droite, centre, gauche, avoir des synthèses de tout ça, etc. J'arrive pas à savoir si les projets ont été mal exécutés, si il y a pas de public, si c'est juste une vision intellectuelle du truc, ou si il y en a un jour qui va vraiment y arriver. C'est assez peut-être que c'est le modèle économique aussi qui fait ça, parce que Wikipédia, en l'occurrence, on peut se dire que ça réussit parce que c'est Wikipédia, parce que c'est gratuit, parce que c'est pas biaisé, parce que c'est communautaire, parce que tout le monde y participe. Aujourd'hui, ils ont validé, mais si c'était une corporate, si c'était vraiment, est-ce que ça marcherait autant? C'est pas évident.
Exact.
Et si je reviens sur North Space, donc vous êtes tous basés à Londres?
Non, on est basé. Marcus est basé à Washington DC, Stuart est basé à New York, moi je suis à Londres et Sacha Vucinic est à Séoul.
D'accord.
Donc nos réunions qu'on fait deux fois par semaine se passent ou à minuit mon heure, ou à minuit heure de Séoul.
D'accord. Et du coup, c'est assez ambitieux parce que donc quand on connaît un peu le monde des médias, ce qui est notre cas à tous les deux, hein, mais on sait que c'est un monde très compliqué en termes de business, de modèle économique, de business model, que il y a quand même peu de médias. Il y en a quelques-uns très, très exceptionnels qui trouvent leur modèle, mais soit sur des médias de niche, soit sur des médias très larges qui sont vraiment très référents, le New York Times, Le Monde peut-être, un certain nombre de médias comme ça. Et encore. Et toi, tu te dis, on va lever de l'argent pour investir dans les médias. Là-dessus, alors c'est pareil, il y a une notion politique, intellectuelle de défense du média ou une vraie approche business. Parce que je dirais, pour connaître bien ce business, de loin, si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est investir plutôt dans un, je sais pas, e-commerce, une techno.
Ouais.
Voilà, plutôt qu'un média en soi.
Exact. Et
je suis désolé, je fais pas ta pub en disant
non,
ça, mais tu vas me répondre.
Tu es viré. non, tu as absolument raison. C'est absolument la perspective. Mais ce qui nous a fasciné, c'est que c'est une perspective vraiment assez occidentale.
D'accord.
Et donc voilà un petit peu la théorie de nos investissements. On a deux types d'investissements. On investit dans les technologies de médias, ce qui veut dire technologie de paywall, technologie de chat, bot, et pas mal d'autres choses, avec derrière l'idée que les technologies continueront à révolutionner l'expérience, la consommation des médias, et donc auront des grandes opportunités. Et c'est le cas. Donc, on a vu beaucoup de succès dans nos investissements technologiques. Et ça représente 50% de nos investissements.
D'accord.
L'autre 50%, c'est vraiment dans les médias. Et pour répondre à ta question, c'est absolument vrai que à l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, on est en train de voir une décroissance des médias. C'est-à-dire que le marché lui-même est en train de devenir plus petit. L'entrée de Google et de Facebook, qui se disent pas médias, qui se disent plateformes, prenons-le à leur parole, qui maintenant se mangent 85% des nouveaux dollars de pub digitaux. Mais surtout le fait que la distribution elle-même coûte tellement moins, les marges deviennent plus petites. Et il y a tellement d'autres endroits pour mettre de la pub. Si ton modèle, c'est de la pub, tu peux les mettre sur un app, une application financière, comme sur une application qui te dit quel bus prendre, etc. T'as plus besoin
d'un
journal.
Ouais.
Donc, dans ce contexte-là, le média, compris à l'ancienne, diminue. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on investit dans des marchés émergents. On n'investit que dans des marchés émergents. Et là, on investit Mexique, Moyen-Orient, l'Inde, bien sûr, et puis l'Asie du Southeast Asia, l'Asie du Sud-Est, Indonésie, Philippines, Taïwan, etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est un phénomène qu'on a vu à la base en Chine. Donc, il y a 20 ans en Chine ou 15 ans en Chine, tout le monde se disait, ouais, c'est un grand marché, ouais, ça doit faire quelque chose, mais il n'y aura pas vraiment... Mais ça va prendre longtemps et aucun média ne pourra vraiment dominer puisqu'en plus il y a de la censure, etc. Et donc mon partner Marcus Brockley était bureau chief pour la Wall Street Journal à Shanghai et puis après à Tokyo et aux autres endroits. Il y avait beaucoup d'amis en Chine qui ont commencé des petits business de médias
où il y avait, il faisait 2, 3, 4 millions de dollars de revenus. Et puis soudain, quelqu'un a mis en marche l'internet, et surtout a mis en marche la smartphone. Et ils sont passés de 3 millions à 30 millions et à 300 millions.
D'accord.
Parce que ce qu'on voit dans nos marchés, ce qui définit nos marchés, ce sont les caractéristiques suivantes. Grosse population jeune, grosse pénétration, mais pénétration croissante du smartphone et de l'internet, et une économie qui va plus ou moins dans la bonne direction. Et donc la théorie là, c'est que quand cette grosse population de jeunes arrive online, ils n'ont absolument aucune loyauté aux vieux médias. Mmh. Et il est possible dans très 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 peu de temps de créer un média qui soit vraiment authentiquement générationnel. Et si ça, tu arrives à le faire, tu crées une augmentation de valeur absolument phénoménale. On l'a vu, on commence à le voir au début au Mexique, qui est un marché pareil. Ils sont 150 millions de personnes là-bas. Il n'y a pas de business indépendant qui gagne vraiment de l'argent, mais avec cette croissance d'infrastructures électroniques, d'infrastructures de banque, d'infrastructures d'internet, de smartphone penetration, cette croissance, elle va exploser. Le Moyen-Orient, une région de 400 millions d'habitants, où moins de 1% de l'internet est en arabe. Il y a très très peu de contenu. Il y a pas vraiment de journaux. Il y a pas d'entertainment pour les jeunes, à part ce qui se trouve sur YouTube. Donc il y a vraiment une possibilité de créer un média générationnel là-bas. Et en Indonésie, en Inde, on est entré dans la plus grosse boîte indépendante de séries YouTube.
D'accord.
Mais on l'a trouvée quand elle était toute toute petite, gérée par deux types absolument phénoménaux, qui ont fait rentrer la femme d'une, qui est encore plus intelligente que eux. Donc ils sont trois fondateurs maintenant. Deal avec Netflix, deal sûrement avec Amazon de distribution. Ils ont monté une application ils l'ont monté en janvier, fin janvier. On est maintenant à 500 000 daily active users.
Incroyable.
En 6 mois. Donc, quand ça part, ça part. Indonésie, pareil.
Et c'est tout petit en plus pour eux. Je veux dire, là, du coup, c'est quand tu montes si vite à 500 000, tu peux te dire derrière, il va vite y avoir 5 millions. Quoi.
Enfin... Exact. Et c'est, voilà l'idée. Et en fait, on veut faire 5 millions l'année prochaine. Donc, cette année. Donc, tu peux grandir. Quand tu as des très gros marchés et des marchés qui changent très vite, tu peux créer énormément de valeur. Et donc, notre approche est entièrement et uniquement financière. On investit d'ailleurs très, très peu dans ce qui est news. On investit dans des médias de toutes sortes. Et en fait, bizarrement, en faisant le bilan de nos investissements sur les 2-3 dernières années, on s'est rendu compte qu'au niveau technologie, dans nos secteurs d'investissement technologique, on fait bien mieux que la moyenne de Cambridge Associates, qui est le benchmark pour tout ce qui est venture capital. On fait quelques bons petits pourcentages de plus que la moyenne. Mais quand on regarde les médias, c'est vraiment stratosphérique la différence qu'on fait. Personne ne rentre dans ces marchés, précisément parce que, comme tu disais, c'est des marchés qui sont conçus comme étant très très dangereux, sans vraiment de possibilité de création de valeur. Donc on est souvent dans des conditions peut-être moins compétitives, ce qui veut dire que les valuations ne sont pas stupides.
Ouais.
Comme on est vraiment focalisé sur les médias, on investit dans des boîtes qui nous veulent comme investisseurs, qui nous écoutent, avec lesquelles on peut vraiment avoir un impact. Et on a vu des croissances à Taïwan ça sera de 45 fois quand on investit il y a 2-3 ans. En Indonésie, c'est déjà 20 fois la valeur, et ça c'est en 2 ans. Je veux dire, on voit des croissances immenses. Tout peut se casser la gueule. Tout peut se casser la gueule, et on a vu déjà ce genre de choses se casser la gueule. Mais l'opportunité est immense.
Sachant que le venture capital, les fonds d'investissement en Europe se sont multipliés de manière hallucinante. Donc du coup, il y a une sorte de la loi de l'offre et la demande aidant, de survalorisation des boîtes qui cherchent de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir, qui ont de l'argent à investir, donc ils veulent le faire. Et donc le fait d'être financé en Occident pour investir ailleurs, dans des pays émergents, te donne un avantage concurrentiel certain. Dans ces pays-là, il y a peu de gens qui investissent où il y a moins de gens qui investissent? Il y a beaucoup d'argent aussi dans les investissements.
Ça dépend des régions. Au Mexique, il n'y a absolument pas du tout assez pour un marché qui sera immense, mais qui a été, dans tous ces secteurs, dominé par la culture du monopole.
D'accord.
Et rien de plus, dans aucun secteur plus que tout ce qui était les communications, etc. Oui. Tout ça appartenait à un homme jusqu'à il y a 10 ans.
Les médias, les télécoms, oui, t'avais.
C'était Monsieur Carlos Slim qui.
Exactement, qui était l'homme le plus riche du monde. Et mais on n'était pas très loin en France, mais il y avait quand même, c'était pas un, enfin, en France et en Europe, il y a toujours eu un gros média public et puis un ou deux gros médias, mais finalement, il y en a toujours 3-4. C'est pas un seul. Quand il y en a qu'un seul, en effet, t'as un marché derrière qui est très différent.
Très, très différent. Pareil, Moyen-Orient, il n'y a pas du tout assez d'investissement. Mm-hmm. Il y a 3, 4, 5 boîtes, mais de bonnes boîtes de venture capital au Moyen-Orient, WAMDA, MAVP. Mais ça commence maintenant. Il y a une compétition pas nécessairement très saine entre certains des pays des pays du Golfe pour une domination de la vision future de la région. Qatar, Arabie Saoudite, Union des Émirats, etc.
Ce qui est très paradoxal parce que eux investissent beaucoup en Europe et dans d'autres domaines, mais je veux dire dans le foot, dans l'immobilier, dans beaucoup de domaines où les Qataris, les Dubaïotes, sont très 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 actifs en fait, mais peu dans leur tech locale.
Pas du tout assez, pas du tout assez. Et ça va venir. On sait comment fonctionnent les écosystèmes. Il y a des boîtes, elles sont très mal financées, une mauvaise culture d'investissement commence. Les entrepreneurs se disent, je joue pas ici, je m'en vais, ils vont aux États-Unis, ils vont en Angleterre ou à Berlin. Ça marche, ça ne marche pas, on ne sait pas. Petit à petit, le marché d'investissement local mûrit. Des boîtes sont finançables à l'intérieur, etc. Mais le cycle n'est pas complet avant qu'il y ait vraiment une culture d'achat dans ces écologies. Donc il faut vraiment que les entrepreneurs voient qu'ils puissent être achetés, que les investisseurs voient qu'il y a des exits pour eux, que des sorties de financement pour eux. Et dans les marchés, beaucoup des marchés dans lesquels on travaille, ce n'est pas encore très très clair. Le Moyen-Orient, il y a eu deux gros exits sur 15 ans. Il y a eu Maktoub qui a été acheté par Yahoo il y a 15 ans pour des centaines de millions. C'est peut-être même un milliard. Ce serait un milliard maintenant en dollars concrets. Et récemment, Souk, qui est le grand Amazon de la zone, qui a été acheté d'ailleurs par Amazon pour 650 millions. Mais il n'y en a pas assez. Et, En Asie du Sud-Ouest, du Sud-Est, Southeast Asia, c'est surtout des grosses familles qui investissent, qui créent des véhicules d'investissement. Mais il y a aussi le début de professionnalisation. L'Inde, comme tu sais, il y a une grosse très culture d'investissement, ouais. Très développée, et la Chine aussi.
Ok. Écoute, c'est assez passionnant tout ça aujourd'hui. Donc, je vois que tu as plusieurs projets en même temps. Et tu vis de quoi, du coup? C'est le fonds Nordspace sur lequel votre domaine, c'est le fonds Nordspace qui vous rémunère.
Exact.
C'est ça, d'accord. Et le reste, tes investissements que tu suis, tu sors. Tu as fait des investissements très heureux déjà ou pas?
J'ai
sorti, je veux dire, au moins.
Est-ce que je suis sorti? Oui, j'ai fait un investissement. Enfin, le meilleur jusqu'à présent, c'était dans une boîte où j'étais furieux de sortir parce que Kleiner Perkins, moi j'avais investi comme angel dans une boîte d'un très vieil ami à moi à Silicon Valley qui s'appelle, la boîte s'appelait Ouya. C'était une console minuscule sur Android.
Okay.
Génial. Une CEO, une femme absolument brillantissime et dont j'étais rentré dedans. Et un an plus tard, même pas, Kleiner Perkins prend un round gigantesque et dit on en a marre de tous ces petits actionnaires qui vont compliquer la mise. Donc on a été forcé à sortir pour 5 fois en neuf mois. Donc c'est assez difficile à battre, mais j'étais quand même furieux. Et sinon, j'ai quelques investissements. Je me suis gouré, je me suis beaucoup gouré, mais avec des toutes petites sommes, d'être sorti de Demotix, et là, je crois que je commence à comprendre comment me gourer un tout petit peu moins.
Et c'est quoi du coup alors le conseil ou en tout cas les peut-être Qu'est-ce que tu as appris en faisant ça? Si moi demain je m'y mets et que j'ai 500 000 euros et que je veux rentrer 10 tickets à 50 000, qu'est-ce que tu ferais?
Ce qui est très très énervant, c'est que
on est d'accord. Pardon, excuse-moi. Je te coupe, mais on est d'accord que d'ailleurs, je pars d'un statement qui est de dire si j'ai 500 000 euros, vaut mieux faire quand même 10 tickets à 500, à 50 000 ou 20 tickets à 25 000
que d'en faire un
à 500 000, quoi. Voilà. Même si on adore le projet.
Exact. Donc ça, déjà, à la base, tu as raison. Je vais te dire quelque chose de très irritant, c'est que tout le monde dit exactement la même chose, mais il faut que tu te sois trompé plusieurs fois pour comprendre que tout le monde a raison. Mmh. Donc deux choses. La première, c'est que la seule chose qui compte vraiment, 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 c'est les personnes qui montent le projet, parce que de toute manière, les boîtes changent de forme. Donc, ils peuvent avoir un marché génial, ils peuvent avoir compris leur technologie, ils peuvent avoir fait tout le reste. De toute manière, l'idée sera pas bonne au début. Mmh. Elle devra changer. Donc, il faut vraiment croire à ces personnes. Et là, il faut vraiment les comprendre.
C'est assez irrationnel, ça.
C'est totalement irrationnel et il y a très très peu à faire. Et surtout, on est aussi très subjectif dans notre manière de juger les gens. Donc, si on se croit fantastique, on cherche des gens qui nous ressemblent. Si on se déteste, on cherche des gens qui sont nos opposés. Et donc, ça, c'est très difficile. Et ça, l'immense avantage d'investir avec deux ou trois autres personnes, c'est que tu diminues la subjectivité de ton regard personnel sur les personnes dans lesquelles tu investis. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça m'avait vraiment choqué en sortant de Demotix, en vendant Demotix, c'est que des très, très bons VC m'appelaient pour comprendre le business model de boîtes qui étaient vraiment nulles, mais totalement nulles, qui n'avaient jamais marché. C'était précisément parce qu'ils ne comprenaient pas le marché. Donc, gros, gros, gros travail pour comprendre le marché dans lequel tu investis. Ouais. Parce que toute technologie a l'air magique quand tu la regardes de l'extérieur. Et toute histoire, si elle est bien ficelée, toute narrative de business te semblera, si elle est bien ficelée, te semblera fantastique. Mais en fait, beaucoup de VC, j'ai l'impression, et moi j'ai sûrement fait pareil, beaucoup de VC investissent dans l'histoire qu'on leur raconte plutôt que dans le concret du business.
D'accord. Et le marché, ça veut dire un benchmark, regarder ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui a existé, qu'est-ce qui s'est planté, qu'est-ce qui a marché.
Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent exact.
Ok. Pour venir un peu sur aujourd'hui, ton orga et ton. Ton approche de la vie, c'est quoi? Comment tu déjà, est-ce que tu vas faire un troisième enfant? Parce que je suis très inquiet pour ta femme.
Oui, ce sera le Sierra Leone. Non, on a décidé qu'on laisse tenir où on était.
Tu pars pas demain en Syrie, quoi. Est-ce que tu comment tu t'organises dans tout ça? T'as plusieurs business, plusieurs associés, plusieurs lignes d'investissement et plusieurs projets. Comment tu ventiles ta semaine? Comment tu ventiles tes journées? Comment tu t'aères l'esprit?
Très bonne question. C'est la fin de l'été là, donc ouais. J'ai quand même pas mal de temps libre où j'ai beaucoup lu, mais j'ai appris quelque chose de mon oncle. Qui lui, je me souviens plus de qui l'a appris, mais une liste de dimanche soir avant de te coucher. Donc ça me cadre ma semaine en termes d'organisation.
Tu le fais tout le temps?
Je le fais presque tous les dimanches, ouais. Même si c'est sur mon téléphone quand je suis au lit, mais j'ai une vague idée de ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine-là.
Dans la semaine. Et tu t'y tiens vraiment?
J'essaye de m'y tenir, sachant que non. Mais j'ai toujours en tête cette phrase très utile qui est que l'urgent est toujours, semble toujours plus l'urgent est l'ennemi de l'important. Et quand on a un inbox d'emails qui est rempli tout le temps, c'est très facile de devenir une machine à répondre à des emails plutôt que une machine à créer de la valeur.
J'ai un gros sujet là-dessus, c'est que un des entrepreneurs, ou si ce n'est l'entrepreneur le plus successful français du moment, en tout cas, qui est Xavier Niel,
ouais,
est vraiment ultra réputé pour répondre à quasiment tous ses emails très rapidement, etc., etc. Et moi, j'ai l'impression qu'on est complètement esclave de sa boîte mail et que quand on fait ça, on est dépendant d'autres et qu'on organise notre journée. Et que je vois un type qui a un succès comme ça et qui réussit comme ça, ça me fait me poser énormément de questions parce que moi, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et je me dis, en fait, j'ai toujours 100 mails de retard et finalement, ces 100 mails, quand quelqu'un m'écrit, je ne dois pas absolument lui répondre, en fait, en soi. C'est lui qui me sollicite. Idéalement, j'essaye d'être poli et de répondre et potentiellement de... Mais y a quand même une forme de... Surtout sur un type comme ça, lui, il reçoit des centaines, des milliers de mails. Et tu vois, je trouve ça très... je sais pas quelle est ton approche là-dessus. C'est vrai que tu me réponds quand je t'écris, mais et vice versa, mais
ouais, c'est bizarre. Ça commence. Ayant été de l'autre côté de conversation avec des investisseurs, je me souviens que c'était pas nécessairement très très agréable. Donc j'essaie de faire un effort avec les boîtes qui nous approchent. Mm-hmm. Et j'essaie d'être. Le grand problème du VC, de l'investisseur, c'est que on finit par croire que c'est nous qui sommes les intelligents dans la conversation avec l'entrepreneur. C'est toujours le contraire. Ça demande énormément de courage et de force et d'énergie pour monter une boîte et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pour gérer un VC. Donc, non, pareil que toi. C'est les manières qui comptent à ce moment-là.
D'accord.
Mais,
Ok, revenons sur ton regard. Pardon, je t'ai.
Ouais, mais tu as raison, c'est une très bonne question. Sinon ça, j'essaie de lire des romans. J'essaie de lire des romans, ça me sort du business de tous les jours. Sinon.
Et tu lis quand même encore des.
Des business books?
Business books, ou je dis encore, je sais pas si t'en as lu d'ailleurs.
Ouais.
Que ce soit business, que ce soit. Anthropologie ou ça, histoire, etc. Ouais.
Donc je lis des romans parce que ça me sort un petit peu de moi-même, puis c'est intéressant, ça te donne une approche différente. Et puis après j'ai des obsessions, j'ai des petites obsessions. Donc je suis obsédé maintenant, comme tout le monde, par la fin de la vérité en termes abstraits, si tu veux, mm-hmm. donc post-truth et comment ça se déroule. Donc je lis beaucoup sur ce thème-là. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais absolument obsédé par la singularity et l'automatisation, que nos enfants, toi et moi, n'auront pas de boulot.
Post-truth, pardon, tu peux revenir là-dessus.
Oui, bien sûr. Ouais. Donc, l'idée du post-truth, c'est... écoute, Rudy Giuliani,
ouais.
Il y a 2 jours...
L'ex-maire de New York.
L'ex-maire de New York, qui est l'avocat de Donald Trump maintenant, mm-hmm. A dit en déposition, parlant à un journaliste, Chuck Meyer, je crois, le type lui a dit, mais attends, tu veux faire parler Trump ou pas? J'ai pas compris si tu veux le faire, tu veux lui faire une déposition ou pas. Et Rudy Giuliani a fini en disant, Chuck, donc l'intervieweur lui a dit, but truth is truth. La vérité, c'est la vérité. Et Giuliani a dit, truth is not truth. Donc, on rentre dans un contexte très postmoderne, mais c'est pas le seul. C'est les alternative facts de Kellyanne Conway. C'est la manière dont Sarah Huckabee Sanders, qui est la porte-parole de Trump, gère les faits, les informations. Mm-hmm. C'est un petit peu la destruction de tout ce qu'on, de la base de consensus, de la société démocratique, qui est que quand je te dis que 2 et 2 font 4, on est d'accord que 2 et 2 font 4 et on se bat après sur le résultat de ce 4. Mais on est dans un contexte intellectuel maintenant où 2 et 2 font vraiment absolument ce qu'on veut. Si tu regardes ce que Trump en particulier, mais pareil en Angleterre, je veux dire, tous les mensonges de Brexit ont été absolument fulgurants. Et ça, c'est bien sûr avant de parler de tout ce qui est les fake bots de la Russie sur Facebook. Donc,
et qu'est-ce qu'il faut lire alors là-dessus? C'est quoi le bouquin qui t'a le plus marqué ou...
Je viens de finir un bouquin très beau et très court, qui est le livre de Michiko Kakutani, qui est la critique en chef du New York Times, qui vient d'écrire son premier livre qui s'appelle The End of Truth, qui est très beau. Sinon, il y a un bouquin de deux journalistes anglais qui ont écrit... deux bouquins qui s'appellent tous les deux Post-Truth. Il y a un essai très intéressant d'un type qui s'appelle Frank Shield, je crois. Mais c'est un essai que tu trouveras sur Internet qui s'appelle On Bullshit.
Ok.
Et Bullshit, comment tu...
Bullshit, connerie, non?
Connerie, ouais. Sur, ouais, mensonge, connerie, exact.
D'accord.
Qui est très drôle et très académique, d'ailleurs. Mais ils parlent tous sur le même thème.
Ok. Et tu lis quand tout ça?
Je lis en voyage, je lis le soir et dans des livres en papier que je me trimballe partout. Et sinon, récemment, j'ai beaucoup lu en vacances.
Écoute, je suis passé au Kindle, moi, et je le regrette pas, mais je trouve ça assez pratique. il y a quelques temps. D'accord. Et sport, t'as l'air hyper fit, Tori. Alors, comment tu gardes un corps de rêve?
Liposuction. Je fais presque jamais de sport, malheureusement. C'est je devrais en faire. Je joue un peu au tennis. Mon fils me dit que je deviens mou, donc il me fait faire des pompes.
C'est vrai.
Donc, je fais des pompes avec mon fils et je joue de temps en temps au tennis. Sinon, je bois beaucoup trop. J'adore le vin.
D'accord.
j'aime beaucoup manger. Non. J'ai l'avantage génétique, qu'est-ce que tu veux, ça sera pas juste, mais ça, tout ça s'écroulera dans très très peu, à mon avis.
D'accord. Et c'est quoi tes secrets d'orga sur techno, outils, sur ton smartphone, sur ton ordi? Il y a des petites choses, des...
J'étais en train d'y penser avant que tu me poses la question, et très 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 peu. En boîte, j'ai poussé mes partenaires sur Trello, qui marche très très bien. Ouais. Donc on fait tout sur Trello, et ce que j'ai compris, c'est que c'est vaut mieux infiniment trouver un système qui marche pour tout le monde plutôt que d'être sur plusieurs. Mm-hmm. Sinon, je suis assez vanille. Si tu veux, Trello, d'accord. Slack pour plusieurs de mes business.
Slack aussi, oui. Ok.
Exact. Et sinon, j'utilise le app du iOS pour mon mail. J'ai pas de grande idée là-dessus. La seule application de méditation, si tu veux, que j'utilise, ça s'appelle WeCroak.
OK.
Et ça m'envoie 5 fois par jour une petite, ça me rappelle que je vais mourir.
C'est pas mal. Écoute, ouais, bah, tu vois, ce podcast, en l'occurrence, souvent, j'ai un partenaire, et la méditation, quelque chose qui revient, qui s'appelle Petit Bambou. Donc, je suis très fier d'avoir, d'ailleurs, ce partenariat. Et en effet, c'est assez drôle, parce qu'il y a quand même un retour, mais ce rappel de tu vas mourir 5 fois par jour est quelque chose à méditer, très intéressant. Écoute, super. Toute dernière question, avant qu'on finisse cet épisode, on pourrait durer des heures parce qu'il y a plein de choses dont je voulais parler avec toi.
Refaire pour te poser toutes ces questions que tu viens de me poser.
si on revenait à tes tout débuts, peut-être juste avant d'être correspondant en Irak, juste avant d'écrire ton livre sur Saddam Hussein, et si t'avais l'occasion de venir te voir toi-même. Et te donner un conseil. Qu'est-ce que tu te dirais?
L'impétuosité c'est la chose qui m'a toujours géré. Mais je crois que je me dirais maintenant, regarde. Essaie de mieux comprendre ce que seraient les fins de tes impétuosités, si tu veux. Un tout petit peu plus de calcul. Je serais peut-être pas allé en Irak. Je me serais calmé sur certaines choses. Je crois que ça. J'ai beaucoup manqué de précision. J'en manque toujours. Je me serais focalisé un petit peu plus dessus. Non, mais sinon, je crois que j'ai eu énormément de chance et j'ai eu le support de parents quand j'étais très jeune et de femmes quand j'étais moins jeune qui m'ont d'ailleurs laissé faire toutes les conneries que j'ai voulu faire. Mm-hmm. Comme c'était pas vraiment des conneries, c'était des choses risquées, mais pas des conneries. Je crois pas que je le referais.
Écoute, je suis ravi de cet épisode parce que je trouve que t'as quand même un beau recul et puis aussi j'ai l'impression beaucoup de travail j'ai souvent des épisodes qui sont très 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 focus business ou très un peu obsessionnels sur certaines choses. Je trouve que toi t'as vraiment ouvert les choses. Enfin, ça m'étonne pas, c'est comme ça que je te connais, mais depuis beaucoup de temps on n'a pas reparlé d'ailleurs. Hein, t'as refait un MBA au milieu de tout ça, non? Non, j'ai pas vu.
Si, pas vraiment, mais je suis allé à la London Business School, ouais, de nuit.
D'accord.
De nuit.
Ok. On passe des gros détails comme ça. Mais voilà, écoute, donc North Base Media, on te trouve sur Twitter pas mal. T'es toujours actif?
Ouais, très actif.
Instagram, LinkedIn?
Ouais, LinkedIn, absolument. Twitter pas mal, c'est Turi.
D'accord.
Sur Twitter. et puis Parly, P-A-R-L-I.co.
Parly, je le mettrai dans les show notes. Je te remercie, Touri.
C'est moi. Ravi. Et un grand plaisir de te parler.
Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Touri si vous voulez échanger avec lui ou si vous cherchez des investissements, même si on parle plutôt d'investissement dans des marchés émergents. Génial. Salut, Touri.
Merci à toi.
À bientôt. N'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur l'application podcast d'Apple ou ailleurs sur l'application Google qui marche très bien. Par exemple, je fais la promo des GAFA. C'est moche. Sur ces belles paroles, à très bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.